Antidote.
Antidote.
Une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage. Juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvelle chronique d'Antidote. Et alors, comme c'est dit dans le générique, et bien Antidote vous propose de vous laisser bousculer. Et bien aujourd'hui, plus que jamais, je vous propose de retirer vos œillères, car le livre dont je vais vous parler est dérangeant à plus d'un titre, et ce, quel que soit votre bord politique ou vos orientations philosophiques. Ce livre, il a été écrit par Olivier Rey, et lire Olivier Rey, c'est toujours accepter de se laisser bousculer dans ses certitudes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut le lire. Alors, dès la réouverture des librairies, procurez-vous, j'espère rapidement d'ailleurs, procurez-vous son dernier ouvrage, L'idolâtrie de la vie, qui est paru aux éditions Tract Gallimard cet été. Pour 3,90€ et en 50 pages, vous avez là une richesse de réflexion qui fait souvent défaut à de gros pavés. Alors un petit mot sur Olivier Rey, il est mathématicien et philosophe. Il est auteur de nombreux ouvrages, je me contente de vous citer ici les trois autres ouvrages que j'ai lus et dont je vous parlerai peut-être un de ces jours. Le premier, c'est paru en 2003, Itinéraire de l'égarement, Une folle solitude, paru en 2006, et Une question de taille, publié en 2014. Mais revenons à l'idolâtrie de la vie. Voici les quelques lignes d'introduction de cet ouvrage. Jusqu'à une date très récente dans l'histoire humaine, une épidémie du genre de celle qui, avec le SARS-CoV-2, s'est diffusée à la surface de la Terre en 2020, aurait affecté l'humanité autant qu'une vaguelette trouble la surface de l'océan. Mais voilà, la vaguelette a pris les proportions d'un tsunami planétaire. Les mêmes causes ont produit des effets sans commune mesure avec ce qu'ils auraient été par le passé. Comment expliquer un tel changement ? Attiré sur ce fil, on se retrouve avec une grosse pelote sur les genoux, nous dit Olivier Rey, qui donc déroule cette pelote, et je vais essayer de vous résumer de quoi il parle. Alors, pour expliquer pourquoi cette vaguelette se transforme sous nos yeux en tsunami, Olivier Rey fait un détour par l'histoire pour nous rappeler deux choses. Tout d'abord, que toutes les sociétés, toutes les civilisations, depuis la nuit des temps, ont toujours placé du sacré au-dessus de l'homme. Certainement parce que très rapidement, l'homme s'est rendu compte qu'il lui fallait lutter contre sa propre puissance, son hubris, et s'en protéger. Ce sacré a pris des formes extrêmement diverses selon les époques et les lieux, mais il situait toujours le sacré donc au-dessus de la vie humaine, quelque chose au-dessus de la vie humaine. Et il permettait aussi à l'homme d'accepter sa propre finitude. Le deuxième rappel historique, c'est que l'État, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une création récente au regard de l'histoire. S'il en existait des embryons, ceux-ci n'avaient que peu de moyens d'intervenir dans la vie des gens ordinaires et que peu de moyens pour répondre aux besoins des populations. Et c'est donc une double évolution qui nous a conduit à notre civilisation contemporaine. Deux évolutions concomitantes dans le temps, qui se sont produites dans les pays européens avant de se répandre sur l'ensemble de la planète, ou du moins de tenter de le faire. La première évolution, elle a débuté au XVIe siècle, mais elle a été actée à la fin du XVIIIe siècle, notamment par la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme. Il s'agit de la centralité et de la supériorité de la vie humaine au-dessus de laquelle il n'y a rien. Cette évolution s'est notamment matérialisée par ce que l'on a nommé la sortie de la religion. Parallèlement, deuxième évolution, on a vu se développer des États de plus en plus centralisés qui ont pris en charge une très grande partie de cette vie humaine. Et ces États ont trouvé leur raison d'être, ou tout au moins le moyen de se faire accepter, dans le salut public. Tout ce qu'ils font est censé être fait pour le bien de leur peuple. Je cite ici Olivier Rey. Plus le pouvoir central porte secours aux citoyens, plus ceux-ci sont enclins à lui reprocher les maux dont ils souffrent. Quand l'État ne peut rien, ou presque rien, personne ne songe à se plaindre de son inaction contre les calamités. Quand il peut davantage, les citoyens ont tendance à réagir comme s'ils l'étaient, et à considérer que c'est uniquement par mauvaise volonté, corruption, incurie, incompétence ou gabégie qu'ils ne résout pas leurs difficultés. Alors, un jeu pervers se met en place. Les gouvernants, notamment pendant les campagnes électorales, promettent toujours plus. Et les individus, habitués à s'en remettre pour chaque aspect de leur existence à un système qui les dépasse, attendent de leurs dirigeants un discours de toute puissance, quitte à les rendre ensuite responsables de toutes leurs frustrations. C'est une situation que l'on connaît bien dans nos pays dits démocratiques. Alors, prenant l'exemple dans la période actuelle de la gestion des masques, Olivier Rey fait remarquer que l'on a critiqué les gouvernants pour ne pas avoir anticipé sur les stocks de masques, mais que ce sont les mêmes qui auraient été les premiers à le fustiger si c'était avéré qu'il y avait des stocks de masques et que ceci n'avait servi à rien et que la somme ainsi allouée aurait pu servir à autre chose. Plus l'État grossit et plus la population lui demande de répondre à ses besoins et ainsi l'État grossit encore un peu plus et ainsi de suite. L'État a ainsi mis en place d'énormes systèmes à qui l'on demande toujours plus. Né au XIXe siècle pour tenter de neutraliser des causes massives de maladies, notre système de santé a aujourd'hui pour vocation de prendre en charge tous les malades et toutes les maladies, et même de les anticiper, et on lui demande d'être aujourd'hui un guérisseur universel. Ainsi, plus le système croît, plus il déçoit, parce que les attentes enflent à l'infini et que les capacités à les combler ne sont jamais suffisantes. Nous voilà donc avec d'un côté un État qui se donne pour mission le bien de tous et qui définit ce qu'est la bonne santé, et de l'autre une société qui, ayant abandonné toute forme de sacré, place dorénavant le sacré dans la vie humaine. Olivier Rey nous parle là de la façon dont nous avons par exemple éloigné la mort de nos vies et du mythe de l'allongement infini de la durée de nos vies, voire de l'éradication de la mort, entretenu notamment par les courants transhumanistes. Ce refus de toute transcendance engendre une servitude accrue et une soumission aux puissances qui protègent nos vies. Pour revenir à la situation actuelle, c'est cette sacralité de la vie qui a facilité le fait, alors que l'épidémie que nous connaissons a un taux de létalité très limité, que nous abdiquions nos libertés d'aller et venir au nom d'arguments sanitaires et, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 mars 2020, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce quoi qu'il en coûte qui pose question. Il me faut faire ici une petite parenthèse. Il peut sembler étrange en effet de parler de la centralité de l'État dans notre société libérale qui donne l'impression que l'État au contraire se désengage. Je reviendrai sur cette question importante dans une prochaine chronique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux choses ne sont pas du tout incompatibles. Que le capitalisme a toujours eu besoin d'un État fort, et que l'État s'accommode fort bien de sous-traiter des pans entiers de l'économie au privé. En fait, les deux avancent main dans la main. Et c'est dans ce contexte qu'Olivier Rey propose de jeter un autre regard sur cette crise. Il se pourrait bien, nous dit-il, que certains, dans le milieu économique, aient bien l'intention de tirer le meilleur parti de la crise sanitaire en cours pour hâter des évolutions qui leur seront bénéfiques. On pense ici plus particulièrement aux fameux GAFAM et autres entreprises du numérique qui possèdent aujourd'hui un pouvoir immense. Et il se pourrait bien aussi que nos dirigeants voient dans cette crise sanitaire un incident très fâcheux certes, mais aussi une fenêtre d'opportunité à saisir afin d'accélérer les mutations en cours et de mettre en place les dispositifs de contrôle qu'en temps normal la population aurait refusé. Alors il me faut prendre ici des précautions d'usage. Il n'y a aucune idée complotiste derrière ces propos. Il ne s'agit en aucun cas de complot, mais d'opportunisme. Venons-en donc maintenant aux conclusions que tire Olivier Rey de tout cela. Pour lui, il n'y a pas de sens à s'emporter contre l'horreur économique et en même temps à réclamer davantage de lits d'hôpital, car c'est la continuation de la première qui autorise la multiplication des seconds. Il faut, au contraire, rompre avec cette logique économique. Et cela implique de renoncer au toujours plus médical et même d'accepter un moins important. Alors il faut savoir que les progrès sanitaires les plus importants ont été accomplis grâce à des dispositifs d'hygiène publique. Au-delà, il nous faut accepter de laisser certains maux sans remède. Et donc, je cite Olivier Rey, « Au lieu de se livrer à la surenchère thérapeutique, cultiver à nouveau collectivement un certain art de souffrir et de mourir. » Voilà des réflexions qui peuvent certes choquer notre bien-pensance, mais qui ne devraient pas laisser indifférent toute personne qui veut bien se donner la peine de réfléchir. Alors, pour conclure cette chronique, voici les dernières lignes de l'ouvrage. Au moment où l'on mesure la dose d'infantilisme qu'il y a à s'exagérer la puissance des gouvernants pour ensuite requérir contre eux à tort et à travers, il ne cesse en retour de pendre à notre endroit des mesures infantilisantes. Triste situation. Pour y échapper, il nous faudrait réapprendre collectivement et individuellement à compter sur nous-mêmes. Bien entendu, les dirigeants politiques et économiques n'ont pas l'intention d'encourager ce genre de fantaisie, ni même de les autoriser. Cela ne devrait pas empêcher de nous y mettre, alors que les glapissements contre l'incapacité des grands dans des crises qui les dépassent est une façon de se maintenir en position de servitude. Voilà donc de quoi méditer au moins jusqu'à la prochaine chronique. À bientôt. Antidote. Antidote.